trois entités au bout de son lit. Objet étrange filmé dans le ciel. Rencontre avec un lutin dans une église. Sphère lumineuse jouant devant une voiture. L'actu OVNI avec Pascal Fechner du Maybe Planet et Patrice Marty qui passera une tête pour nous donner des nouvelles de deux événements qu'il organise. C'est le sommaire de cette libre antenne de rentrée, comme le veut la tradition. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue. Je suis toujours Bob Belenca.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
L'été s'achève et vous avez peut-être été les témoins de phénomènes mystérieux et inexpliqués. La libre antenne est là pour ça. Vous souhaitez en parler? 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Il fait son grand retour lui aussi sur BTLV, c'est Jocelyn F. Keller. Salut Jocelyn.
Salut Bob.
Ravi de te retrouver. Je sais que tu as passé un très très bel été. Oui. Je t'ai vu parcourir un peu la France. Voilà. Et à la recherche aussi d'informations, comme d'habitude, parce que ouais, tu es toujours aux aguets. Et d'ailleurs, ça...
Je suis repassé dans la forêt de Boscodon.
Bah oui. Donc... Et d'ailleurs, on a remonté cet été une conférence que tu avais donnée, les disparus de Boscodon, ouais, lors des dernières rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne, et ça cartonne toujours autant. Il y a d'ailleurs un dossier d'expliqué qu'on va enregistrer très prochainement, et on aura l'occasion, bien sûr, de vous en parler. Avant cela, j'aimerais signaler que tu vas être à l'affiche d'un festival, le Salon de l'Étrange, 10 et 11 septembre 2022, c'est au Manoir. Alors, dans quelle région?
Le Manoir, c'est dans les... C'est juste à côté de Dijon, à Marsanais-la-Côte.
D'accord.
Que moi, je connaissais surtout pour le vin.
Pour le vin? Bah oui, oui, bien sûr.
Bah écoute, on va le connaître aussi pour le paranormal.
Ouais.
Donc, c'est les organisateurs du fameux Para-Expérience de Dijon qui créent un nouveau format.
D'accord.
Et il va y avoir des conférenciers. David Gallet, j'ai appris ça hier, sera présent aussi.
D'accord.
Et on va donner des conférences. On sera là pour rencontrer les gens. Alors, c'est avec un public assez limité. C'est-à-dire que...
Il y a pas plein de places. Ah, d'accord.
Oui, il y a une jauge parce que voilà, c'est pas le palais des congrès de Dijon. Donc, il y a un peu moins de monde. Bon. Je sais qu'il reste encore des places. Donc, il faut se dépêcher.
Bon, on est ravis, bien sûr, de vous retrouver. Après un été qui, pour certains, était bien reposant, pour d'autres un peu moins, mais dans tous les cas, on a travaillé sur la rentrée, ce que nous allions vous proposer cette saison. Encore plein d'interviews, bien sûr, exceptionnelles. Et puis, BTLV fête ses 10 ans, c'est la 10e année, on rentre dans la 10e année de BTLV. Et regardez, pour fêter l'événement, tous nos abonnements passent au sans engagement. Voilà, plus d'engagement. Voilà, vous vous abonnez, vous vous désabonnez quand vous le souhaitez. C'est la flexibilité, la possibilité pour vous de venir 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an et de partir quand vous le souhaitez. Chaque personne qui s'abonne peut, en un clic, se désabonner. Et en plus, c'est un tarif réduit à l'occasion de ces 10 ans. Vous avez bien sûr, pour en profiter, le lien qu'on va vous mettre dans le chat, ou alors vous avez bien sûr tout cela sur btlv.fr. Je voudrais juste vous signaler que ce soir encore, nous allons avoir des... témoignage assez particulier. On commence avec Méric qui est avec nous au 01 86 22 21 20. Bonsoir Méric.
Oui, bonsoir.
Ravi de vous accueillir Méric. Vous nous appelez d'où d'abord?
Moi j'appelle d'Essonne, Sainte-Geneviève, en Essonne. Ouais.
D'accord. Alors dites-moi, vous avez vu visiblement trois entités au bout de votre lit, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors cet été je pars en vacances à Chorges,
ouais,
dans les Alpes.
Mmh. Je connais très bien.
Ah oui,
c'est à côté du lac de Sarponceau.
Exactement, c'est ça. Donc voilà, donc j'étais parti en vacances là-bas, 15 jours, et la deuxième semaine, donc c'était un petit chalet de montagne, tout ce qui est le plus standard. Le mardi, j'y suis allé avec mes filles, mes deux filles et ma femme, et mes beaux-parents nous ont rejoints la deuxième semaine.
D'accord.
Donc, je m'endors. Voilà, ouais. Donc la soirée s'est passée, j'ai pas bu d'alcool avec des raisons, j'ai pas, voilà, ni, je m'endors, et je me réveille à 3h du matin, sur le dos, en dormant, quoi, et en fait, à mes pieds, au bout de mon lit, je vois trois entités, dans une formation un peu triangulaire, en V, voilà, la personne devant et deux personnes derrière, une à gauche, une à droite.
D'accord, donc genre il y a un chef, il y a les deux personnes derrière, en fait, c'est ça?
Ouais, ou plutôt comme les oies, vous savez, dans le ciel, voilà, ouais, en formation V, voilà.
Okay.
Et en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas de visage. Ces trois entités n'ont pas de visage. Ça ressemble un peu, grosso modo, à un peu la forme de visage de Groot, vous voyez, dans Marvel.
Ouais, bien sûr.
Vous voyez, un peu trapèze, voilà.
Ouais.
Et donc, voilà, ces trois entités, je les vois bien, de la tête aux pieds, donc, enfin, de la tête aux au bout du lit, en fait, donc à peu près jusqu'à mi-cuisse, quoi, enfin, si on peut parler de cette hauteur-là. Mm-hmm. Et elle porte une espèce de toge, comme un gant de tranche couleur beige.
D'accord.
Et elle voit que je les vois. Elle recule. Et en reculant, en fait, elles ne sont plus dans une sorte de halo lumineux. Et donc, je ne les vois plus, elles passent dans l'obscurité.
D'accord.
Là, dans le mur de cette chambre de location, il y avait un miroir. Et le miroir se met à flasher très fort, comme s'il y avait un reflet.
Mmh.
Et là, plus rien, nuit noire.
D'accord.
Nuit noire. Alors, nuit noire, parce qu'on est en montagne, il n'y a pas d'éclairage public. Ce n'était pas possible que ce soit un reflet de phare de voiture dans le miroir ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai quand même, enfin, je suis pas quelqu'un qui ne croit pas, je suis pas quelqu'un qui croit, enfin, je peux croire, mais voilà, donc j'ai quand même cherché un petit peu à savoir quoi. Mm-hmm. Est-ce que c'était pas un reflet, est-ce que c'était pas un rêve ou quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Je me suis pas senti rêveur, enfin, vous savez, la sensation qu'on a quand on arrive,
oui, bien sûr,
chose, c'était
ouais.
Très bien, quoi.
Vous aviez la sensation d'être bien réveillé, quoi, en fait, c'est ça.
Ouais, bien réveillé, ouais, ma femme était à côté de moi, elle dormait, voilà, il faisait très chaud en plus à cette période-là,
ouais.
Donc voilà, je me suis réveillé, tout était fermé, pas de lumière dans la chambre, ouais, voilà ce qui m'est arrivé.
Question sur le coup, vous avez réagi comment? Vous avez eu peur? Vous avez poussé un cri?
Pas du tout. J'ai pris ça très. Voilà, j'ai vu ça, voilà, et vraiment ça a duré quelques secondes. Hein.
Oui, c'était bref.
Hop, ils ont disparu. Et puis bah voilà, c'est fini. Là, j'ai pris conscience de ce qui venait de se passer. Et puis je me suis tourné, j'ai choisi de me rendormir.
Mmh, mmh.
Donc j'ai mis un certain temps à me rendormir. Et puis voilà.
Est-ce que vous aviez la sensation quand même quand vous voyez ces entités qu'elles sont physiques? C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'il y a une
Oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte d'échange entre ces trois entités l'une envers l'autre. Donc après, est-ce qu'elles sont physiques? Oui, je pense que c'était pas quelque chose qui flottait, quelque chose de transparent.
Ouais, ouais.
Bon, voilà.
Donc il y a pour vous il y a quelque chose de avec de la matière, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un hologramme ou quelque chose comme ça. Et,
non, ouais,
et est-ce que vous avez eu la sensation que, parce que moi je me pointe au pied du lit de quelqu'un, c'est soit pour lui faire l'amour comme une bête, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors,
sympa, voilà. Merci, on se connaît pas, on va peut-être boire un verre avant.
Voilà, alors je parlais pas de vous, hein, donc nécessairement.
Ah bah si, mais... ça y est, tout le monde le sait maintenant.
Mais, ou alors, vous voyez, c'est que j'ai quelque chose à dire, vous voyez ce que je... Et là, ce qui est intéressant, mais vous n'êtes pas le seul, hein, ça arrive assez souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent, au pied de mon lit, j'ai vu des entités, des choses.
C'est
quoi.
Ce qu'on appelle un archétype.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
qu'en fait, cette scène, moi j'ai l'impression, même, je ne l'ai jamais vécu hein, personnellement, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Alors bien sûr, parce que je l'ai lu, entendu à plusieurs reprises, je l'ai vu dans des films.
Oui.
On voit souvent des personnages dans des films aussi qui sont couchés, puis tout à coup ils se réveillent et au pied du lit il y a des appelons ça des entités ou des créatures qui peuvent être
dans
de toutes sortes.
Stephen King, ça peut se passer.
Par exemple, ou dans pas mal de films. Enfin, c'est pour ça que je parle d'archétype. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Après, ce qu'il faudra établir, c'est la matérialité de ces entités. C'est pas facile, hein, ça a duré quelques secondes. Savoir si vous étiez bien réveillé, parce qu'il y a aussi des rêves, moi je
lucide,
l'avocat du diable, il y a aussi des rêves où on a l'impression qu'on est réveillé et en fait on continue de rêver. Il y a des gens qui vous racontent des trucs incroyables en disant j'étais réveillé, blabla, et en fait ils dormaient toujours. Donc il peut avoir ça, mais après si vous êtes vraiment réveillé, votre épouse, elle a rien entendu, rien senti?
Non, rien du tout, je ne l'ai pas réveillé. Alors je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas réveillé. Parce que déjà, quand vous réveillez en plein milieu de la nuit pour vous dire « je crois que j'ai vu quelque chose au pied du lit », il y a deux réactions. Soit on cherche qui c'est, soit tu te fous de ma gueule. Donc voilà, j'ai attendu le lendemain quand même pour me dire on va digérer un peu cette affaire et puis et j'en ai parlé. Elle m'a dit « ok ». Elle m'a dit « pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?» Bah, je suis « justement, je n'ai pas osé voilà. ».
Oui, puis alors vous savez, je vais vous dire une chose, je ne suis pas certain que même si vous l'aviez réveillé, elle aurait pu avoir ce spectacle.
Oui.
On a la sensation que toutes ces choses un peu étranges, ésotériques, paranormales, elles sont propres à chacun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que vous avez dû voir, peut-être que la personne à côté de toi, ça se voit beaucoup dans les ovnis. Il y a des gens qui voient, ils sont en groupe, il y en a un qui voit un objet, les autres ne le voient pas. Voyez, comme si c'était, voilà, comme s'il y avait un lien avec cette étrangeté. Voilà, c'est assez incroyable.
Et le fait que vous disiez que vous avez, donc après vous êtes retourné, enfin vous avez un peu modifié votre position, vous êtes rendormi, ça exclut sans doute la piste de la fameuse paralysie du sommeil.
Oui, c'est ça.
En général, quand on a une paralysie du sommeil, on est un peu, voilà, on bouge pas, quoi.
Ouais.
Et ça met du temps avant de s'estomper. Ouais. Là, si vous dites que finalement, après, vous êtes retourné, puis vous êtes rendormi.
En fait, je ne sais pas ce qui m'a le plus surpris, c'est soit de voir les trois entités au pied de mon lit, soit le grand flash de lumière une ampoule qui éclaire très très fort d'un coup, comme un halogène.
Alors il y a quelqu'un sur les réseaux qui dit, est-ce que c'est pas, tout cela n'est pas dû à notre méconnaissance du cerveau? Effectivement, on sait que le cerveau peut jouer des tours, hein. C'est surréaliste en fonction de l'état. Alors justement, à propos de cerveau, dans quel état étiez-vous ce soir-là? Est-ce que vous aviez fait... Oui, mais est-ce que vous aviez fait quelque chose de particulier la journée? Est-ce que vous avez eu un coup de fil singulier? Quelque chose qui vous a marqué? Parce que quand on voit, par exemple, les rêves, on se dit, waouh, ce que le cerveau nous donne comme information, c'est à des années-lumière de ce que l'on pense être notre vie, notre univers. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous ramène devant cette information. Est-ce que vous avez la sensation que ce jour-là, il s'était peut-être passé quelque chose qui aurait pu... induire tout cela, ouais, activer quelque chose. Je dis pas que c'est... Bah, c'est voilà, je sais pas.
Hein. Ah non, mais vous avez raison de poser autant de questions. Sachant que c'était des vacances un peu pépère, on a fait du lac ce jour-là, on n'a pas fait de promenade plus activante que d'autres, de randonnée, puisque c'est un coin à randonnée. J'ai lu au coucher comme je lis tous les soirs. Après, je n'étais pas sur une période de livre de science-fiction. J'étais plus d'ailleurs sur un Ken Follett, pour vous donner un petit peu de truc. Ouais. On était sur du 1100, donc on était loin de tout ça.
Ouais.
Je lisais en parallèle des bandes dessinées qui ne traitaient pas de ce sujet-là. Après... Ouais, j'ai essayé quand même de chercher, de me dire, tiens...
Et du côté du lieu lui-même, alors c'était une maison de location...
On est sur un chalet en bois.
C'est un chalet,
Ouais, on est sur un chalet en bois, tout ce qu'il y a de plus standard, avec les poutres apparentes, avec les toits exprès...
Méric, est-ce que c'était la première fois que vous viviez quelque chose de particulier?
Ah ouais, carrément, ouais.
Voilà.
Ouais.
Est-ce que depuis, il y a eu autre chose?
Alors non, depuis, il n'y a pas eu autre chose... mais justement, c'est marrant que vous dites ça. Il y a mon meilleur ami qui m'écoute là très certainement, Jean-François, qui est grand fan de vous, qui a l'abonnement, qui a tout ça. Et en fait,
c'est un mec bien, Jean-François. Hein. J'aime beaucoup Jean-François. Il est très très bien, Jean-François. Donc...
voilà. Merci pour lui. Il doit être tout rouge et il apprécie. Et en fait, il m'expliquait que justement. Les témoignages qu'il écoute expliquaient que justement très souvent il y avait des retours de contact s'il y a eu un premier contact, souvent c'était pour autre chose derrière, quoi.
C'est là où ça va être intéressant pour vous d'être attentif, parce que vous pouvez effectivement par la suite, vous savez, on a vu beaucoup, enfin moi ça fait maintenant 10 ans que je travaille sur ces sujets, on a la sensation qu'il y a des gens qui sont choisis et que quand vous avez été choisi, il y a des choses qui reviennent assez souvent, mais presque ça va au-delà de l'entendement, c'est-à-dire qu'on se dit c'est pas possible. Mais cette personne, elle vit plein de choses, au point de se dire ouais, c'est bidon ce qu'elle raconte tellement. Mais j'en suis pas certain, on a la sensation qu'il y a des gens qui sont choisis et qui, de toute façon, vont recevoir un maximum d'informations, alors que d'autres, comme moi par exemple, ne reçoivent rien. Voilà, à part des factures à payer. Donc voilà, donc c'est tout. Donc, ça c'est commun à tout le monde.
Non, mais c'est vrai qu'il faudra être attentif là dans les temps à venir pour. Et
du coup, je voir suis.
Si il se passe des choses.
Il y a Jeff Hara qui dit une abduction ratée. Effectivement, vous auriez pu peut-être aussi être choisi pour être abducté. On a pas mal d'émissions ici sur BTLV de gens. D'ailleurs, on va recevoir un abducté incroyable prochainement. C'est Yann Alexander, que j'avais déjà eu la chance de recevoir lors d'une émission spéciale, c'est abducté, avec plusieurs abductés. Et là, on va vraiment travailler avec lui sur son cas. Lui, il a été surpris, bouleversé par ce qu'il a vécu. Ça ne l'a jamais quitté. Et peut-être qu'effectivement, vous avez été... ça a été une abduction ratée. Parce que je ne vois pas l'intérêt de ces entités de se poser devant votre lit... Juste pour vous regarder, vous voyez ce que je veux dire.
En même temps, la description qui est faite, ça m'évoque moins une abduction, enfin les scénarios d'abduction, que les choses qui seraient plutôt... Alors on voit ça dans les films, c'est de la science-fiction.
Ouais.
Mais tu vois, des créatures ou des entités qui viennent d'un monde parallèle.
Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui dit, Bob, certains extraterrestres ont des facultés psychiques. Et on se demande si parfois, justement, ces entités qui viendraient, peut-être, vous posiez... Et puis, vous n'avez pas ressenti qu'il y avait une communication entre vous? Il n'y a pas eu un quelque chose?
Non, pas du tout. Mais après, la question que je me pose, est-ce que c'était pour moi?
Ah
oui, c'est bon.
D'accord.
Oui, voilà. Sauf que je vais prendre ma femme.
Ouais.
et du coup, je leur ai
bon, envoyez-moi ça. Votre photo et la photo de votre femme, je vous dirai. Hein. Donc moi, ouais. À choisir, voyez ce que je
veux dire. À choisir ce qu'il faut prendre.
Voilà, je pourrais choisir éventuellement votre femme. Hein. Voilà, enfin, je dis ça, je dis rien. C'est pas que je vous aime pas bien, mais quand même, voyez, il y a...
Ouais, ça y est. C'est déjà fini entre nous.
Oui, ce que je vous dis, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, on n'a bien sûr pas d'explication. La seule explication que l'on peut vous donner, c'est que vous avez quelque chose de singulier et vous avez bien fait d'en parler parce que c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que vous témoignez sur BTLV, il y a d'autres gens qui se reconnaissent dans vos témoignages, qui disent « Ah mais moi aussi
!»
Et ça c'est intéressant parce qu'on se dit on n'est pas seul et c'est surtout ça, la solitude dans l'ésotérisme, dans le paranormal, elle est parfois pesante, c'est-à-dire qu'on a du mal à en parler, etc. Ici c'est un véritable espace d'expression et il est total. Merci en tout cas Méric. Juste, quel âge vous avez Méric ?
Moi, j'ai 35 ans.
D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un film incroyable. Vous avez le prénom d'un personnage célèbre qui avait...
Si, John Merrick.
Ben voilà, John Merrick dans Elephant Man. Et effectivement, c'est juste un film...
C'est aussi Merrick dans The Island.
Voilà. Ben, alors ça, c'est plus jeune. Mais en tout cas, John Merrick dans Elephant Man. Et c'est un certain... Comment il s'appelait son prénom ? Je ne me souviens plus. C'est John Hurt, je crois. John... Qui jouait ce rôle de... Qui a été un vrai personnage, hein, John Merrick, une vraie histoire. D'Elephant Man, c'est un film que je vous invite à regarder parce que, bon, il ne faut pas être sensible. Hein. Moi, je pleure toutes les 30 secondes. Mais c'est un joli film et vous m'avez fait penser à ce film et c'est tant mieux. Merci en tout cas, Méric, d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite une belle soirée. Embrassez votre femme pour moi et où vous voulez.
Témoignage. Réaction. Commentaire. C'est la Libre Antenne BTLV.
On est en direct, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Il y a Facebook. Vous pouvez envoyer des étoiles pour nous soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner. Quand on le rappelle, en fait, nos 10 ans, on rentre dans la 10e année de BTLV. Tous nos abonnements passent pour l'occasion sans engagement. Et en plus, à tarif réduit, profitez-en pour nous soutenir. On a besoin de vous. Hein. Je vous rappelle que la situation est difficile. Vous avez regardé l'actualité. Elle l'est d'autant plus pour des sites comme nous, qui sommes des sites un peu complémentaires. Donc, on a vraiment besoin de vous. Rentrez dans la communauté de BTLV, vous ferez un bon geste parce que ça nous permet de continuer ce que l'on vous propose quotidiennement sur BTLV. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ce soir, car c'est le retour et c'est tant mieux. On est sur Facebook, je le disais, YouTube et Twitch aussi. On est avec Jocelyn F. Keller et je voudrais vous annoncer quelque chose d'assez intéressant. Cette année, on a trois bouquins qui sortent. Alors, en 2023, il y a Patricia Daré qui a signé chez BTLV dans la collection Mystères inexpliqués, Les fantômes ne sont pas des morts comme les autres. Donc c'est un livre qui va, à mon avis, cartonner. On a Egon Kragel qui sort un bouquin sur les ovnis, c'est le tome 2. Mais bon, on aura l'occasion bien sûr d'y revenir. Et puis là, on a le bouquin de Sandrine Chopin. Vous pouvez le précommander avec un tarif préférentiel, bien sûr, pour vous. Des célébrités face au surnaturel. Ça va faire un carton. Je peux vous dire que Max Milo, l'éditeur, est allé faire le tour des Fnac, des Cultura, de toutes les plateformes. Et ils sont certains que ça va cartonner parce que vous avez quand même des acteurs comme Pascal Légitimus, d'ailleurs, qui a signé la préface. Patrick Chenet, vous avez des humoristes comme Anne Romanoff. Pascal Légitimus, vous avez pour les plus vieux d'entre vous, les petits clous, Marc Touesca. Il y a Mireille Dumas. Il y a Franck Leboeuf, champion du monde de foot. Et vous allez voir, dans ce bouquin, ils se livrent comme ils ne se sont jamais livré, donc vous pouvez précommander. Il suffit que je trouve le lien et en tout cas ce sera sur btlv.fr que vous pourrez le trouver dans les jours qui viennent. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous ne changez rien. Je voudrais juste vous signaler que BTLV, si vous aimez les ovnis, c'est ici que ça se passe.
Le phénomène ovni n'est plus un fantasme, il est une réalité.
C'est un rapport qui répond à une question. Que sont ces apparitions dans le ciel américain ?
Officialisé par le Pentagone américain, il interroge et pose problème aux armées du monde entier, incapables de réagir face au mouvement et aux propriétés technologiques de ces objets volants non identifiés.
UFOs are real. That's what the report is saying.
C'est pourquoi BTLV vous informe, jour après jour, sur le dossier le plus brûlant du siècle.
On a des choses factuelles insensées, on nous parle d'objets physiques. Je crois 80 cas ont été repérés.
Qu'en sera-t-il de mes invités ? Le gratin de la recherche ufologique est sur BTLV ce soir.
Interview, articles, témoignages. rien ne peut vous échapper.
Dans cette vallée, on peut voir apparaître des boules de lumière qui se promènent, qui disparaissent.
L'engin avait plané au-dessus de la centrale pendant 6 ou 7 minutes.
Parce qu'ils avaient des caractéristiques de vol inconnues, stationnaires dans des vents violents d'altitude, ils se déplaçaient contre le vent, ils allaient à une vitesse considérable sans moyen de propulsion.
L'actualité a jamais été aussi rythmée par des déclarations.
BTLV, le média numéro 1 sur les ovnis.
Et on n'en a jamais autant parlé que depuis 2017 de ce sujet OVNI. On aura d'ailleurs Pascal Fechner du Maybe Planet tout à l'heure qui viendra nous parler de l'actualité parce qu'il s'en passe des choses. C'est quotidien hein, sur les OVNI. On n'en a jamais autant parlé que durant ces dernières années. Et ça nous fait du bien parce que ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé, que c'est un vrai sujet et qu'il faut le prendre à bras le corps. On a Christophe au 01 86 22 21 20 qui est avec nous. Bonsoir Christophe.
Salut Bob.
Ravi de vous accueillir Christophe. Comment ça va?
Eh ben, est-ce que tu m'entends bien déjà? Parce que là, j'ai un petit doute avec mon téléphone.
Ah oui, je t'entends très très bien, Christophe. Dis-moi tout. Christophe, ne serais-tu pas réalisateur de films, toi?
Mais si.
Ah, voilà, c'est pour ça que je me disais, je reconnais cette voix. Et tu es en préparation d'un film, d'ailleurs, je crois.
Hein. D'un projet de long, en fait, qui était en gestation depuis longtemps. Puis après, c'est rentré dans un tiroir. Et puis ouais. Là, ça ressort. Parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu échoués parce que le contexte plus ou moins favorable pour ce genre de projet, etc. Donc il y en a qui ressortent, qui reviennent et qui se réadaptent à l'actualité et puis les tendances et tout ça. Donc là, on est lancé sur ce projet-là, qui devrait aboutir logiquement, quoi. Mais il y a du boulot et puis. Et c'est sur un sujet un peu BTL vient.
Bon, eh ben on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, tu as filmé un objet assez étrange, en tout cas qui te semble étrange, et tu nous as apporté la vidéo. Alors, avant de la regarder, plante-nous le décor.
Mais en fait, moi, pour tout te dire, ça fait 35 ans que j'attendais ce petit ovni très lointain. Enfin, 35 ans parce que j'ai toujours été passionné par la Lune, ses mystères, les ovnis, etc. Et puis la majeure partie des sujets abordés sur BTLV, mm-hmm. les particules des ovnis. Et puis, tu sais, c'est souvent ceux qui sont les plus passionnés par un sujet qui l'abordent le moins. Enfin, en tout cas, en tant que témoin d'un ovni.
Bien sûr.
Je croyais en avoir vu à une époque ou pas. Là, il y a à peu près 15 jours, j'ai vu un truc étrange dans le ciel. Et puis on m'a dit que c'est pas un ovni du tout, même si c'est spectaculaire. On appelle ça des trains de satellites ou des
vagues. Ah bah oui, c'est les Starlink d'Elon Musk.
Ah voilà, c'est ça. Alors c'est super spectaculaire parce que dans un ciel clair étoilé d'été,
c'est flippant.
Un peu comme dans Rencontre du troisième type, tu as les étoiles qui sont cachées tout du long. C'est assez impressionnant. Puis bon, après, quand tu vois ce que c'est,
pendant un moment, ils avaient disparu, les Starlink. Enfin, ils n'avaient pas disparu, ils continuaient à être lancés. Simplement, la société avait réduit l'exposition au soleil. Donc, on les voyait beaucoup moins. Mais là, ils viennent de lancer des nouveaux trains. Et moi, j'ai un logiciel qui permet de les suivre, enfin, une sorte d'appli qui permet de les suivre et de savoir où ils passent.
Ouais.
Et j'ai vu revenir le côté, comme on appelle, bright luminosity,
ouais,
c'est-à-dire
une
luminosité importante.
Et
qui avait complètement disparu pendant un an et demi à peu près.
Parce que j'ai vu des photos là, il y a quelques jours, de gens qu'on a posté.
Les gens
disaient waouh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. J'ai vu un ovni. Je fais non, c'est Starlink. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant quand on les voit pour la première fois.
Moi, je les avais vus pendant le confinement, quand le ciel était très dégagé et que justement les premiers trains étaient très lumineux. C'est un spectacle extraordinaire.
C'est magnifique. Donc voilà.
Tu espères presque à ce moment-là, tu dis voilà, ça y est, c'est le bon moment. J'étais avec ma femme et ma fille, je leur ai dit regardez.
Ils sont là.
Enfin bon, alors donc là, on va dire 15 jours plus tard, bon, bah, moi je plante une caméra un soir, comme je le fais souvent pour tester des optiques, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la technique,
ouais.
Et aussi bien aux caméras, mais aussi au niveau des optiques, puisque les optiques évoluent énormément depuis toujours,
mm-hmm.
Et puis raison de plus pour le cinéma, parce que les optiques maintenant sont toujours plus performantes, mais en même temps... Tu veux toujours aussi avoir une petite touche assez naturelle et douce quand tu veux récupérer un rendu, une texture très organique, très argentique. Là on commence à être vraiment à la frontière là aujourd'hui quand tu vas au cinéma voir un film. C'est vrai que maintenant on se pose même plus la question, c'est-à-dire maintenant le film que tu as au cinéma n'est plus numérique, n'est plus vidéo dans son rendu. Mais en général, je veux dire là. pense au, c'était le, je sais plus quel James Bond, ça avait fait du bruit quand le premier James Bond a été tourné avec Daniel Craig, c'était en numérique. Mmh. C'était la première fois qu'une grosse franchise cinématographique passait à un au numérique pour une grosse production, une grosse franchise telle que James Bond. Et personne n'y avait que du feu, bien sûr. Enfin, je viens par là, tu mets un bon chef-op derrière.
Non, des bonnes... alors Christophe, on ne va pas parler technique toute la soirée, parce que là, tous les gens qui sont derrière leur ordinateur et qui regardent ou qui écoutent, ils se disent, qu'est-ce qu'il a vu, Christophe ?
Alors voilà, alors donc en fait, j'ai posé ma caméra, j'étais là pour tester en basse lumière cette optique-là, je laisse tourner la caméra, je change de focal, je prends un 600 mm, qui est quand même assez puissant. Et alors pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, sachant qu'une caméra de ce type, une caméra cinéma, c'est souvent avec un capteur Super 35. Donc c'est un, on va pas, sans rentrer dans les détails, on va dire que c'est un capteur qui est moins ouvert, moins large, moins grand qu'un 24-36 photo, par exemple.
D'accord.
Voilà, donc... Ça veut dire que ce qu'on appelle le crop factor, c'est-à-dire que le degré de serrage de l'image, enfin de zoom si on veut, eh ben est plus important. Donc ça m'approche plus de la lune.
Christophe, qu'est-ce que tu as vu ? C'est ça qu'on veut savoir. Vas-y, qu'est-ce que tu as filmé ?
Bah écoute, par la vidéo...
On va la regarder, la vidéo, parce que effectivement, donc tu avais décidé de filmer la lune. Voilà. Et tout d'un coup, il y a un truc effectivement qui se balade, un truc.
Voilà,
noir.
Je regarde les rushs le lendemain matin et je regarde les rushs. Bon, je ne vois rien si ce n'est, tu vas voir en premier plan, il y a une petite valeur de comment, et c'est ça qui est important quand même quelque part quand on regarde la lune ou un paysage, c'est d'avoir une valeur d'échelle de profondeur de champ ou pas. Mmh. Et là, on a un repère, c'est une branche d'arbre qui passe au premier plan, qui est à peu près à, je sais pas, 50 mètres de moi, et tu as une pétouille. Donc, t'as les deux opposés. T'as au loin cette branche et t'as tout près, parce que sur le capteur ou sur l'optique, une pétouille. Donc, je l'ai entouré. Je t'ai envoyé un document, une capture qui montre cette pétouille qu'on voit en bas à gauche.
Ah ouais, c'est ça, on la voit, ouais. On le voit juste à ce moment-là, alors que tu parles, on voit ça.
Voilà, cette pétouille, évidemment, ne bouge pas. C'est juste pour donner un repère. Et on voit ce petit truc qui passe comme ça. Je me suis dit, réflexe numéro un, c'est un oiseau. Alors, il est 23h15, il est brouette. Moi, je me dis, c'est un oiseau. Ça ne peut pas être un avion, parce que faire un arc de cercle comme ça aussi,
non,
parfait.
Non. Là, à l'intérieur, là, les gens seraient très, très mal. Hein, donc, voilà. Donc,
voilà, déjà, un satellite, bah, c'est
non,
pas
ça,
peine.
Ça ne va que dans un seul sens, le satellite. Donc, voilà.
C'est rectiligne.
Voilà, ouais. Et puis bah, le problème, c'est... Alors, je me dis, alors, mais il y a un autre truc aussi qui tenait pas mal la route, c'était éventuellement un drone. Quelqu'un qui fait mumuse avec un drone la nuit, comme
oui,
ça.
Ou un insecte, non, quand même, Christophe.
Mais le mouvement est tellement parfait, c'est une sorte d'un mouvement de boomerang, enfin d'arc de cerf, comme on veut, mais c'est tellement propre, c'est tellement, je sais pas, j'allais dire, ouais, tellement parfait dans ça.
Alors, sur les réseaux, on dit chauve-souris ou mouche, hein, donc voilà, mm-hmm. c'est ce qui est annoncé pour la plupart des gens. Donc, mais quand on a regardé la vidéo tout à l'heure, c'est la première chose qui nous a...
Mais au bout d'une seconde, quand j'ai vu l'image, mais c'est purement comme ça, hein, c'est mouche.
Voilà, on s'est dit c'est une mouche, parce que effectivement en plus avec les objectifs que tu as peut-être chopé effectivement un insecte qui est passé devant, entre toi et la lune, et avec la luminosité de la lune, t'as chopé ça.
Carrément posé sur la lentille, non, c'est possible.
Non, parce que là elle n'est pas posée, parce qu'on voit qu'elle vole.
Ah oui, parce qu'on la verra en gros, voilà, oui, pardon. Voilà,
donc, non.
Non, puis là je suis dans... Non, il faut savoir que là je suis dans le noir total.
C'est-à-dire oui,
que
c'est
là,
ça.
L'image, elle a été explosée parce que l'image, elle est atroce, parce que moi, j'espérais avoir une bonne image, mais j'étais à 800 ISO avec un objectif qui était à longue focale, mais pas lumineux, pas performant au niveau ouverture. Donc, ça veut dire que c'était des conditions de lumière atroces, quoi.
Ouais.
Donc, il a que j'explose l'image sur mon logiciel de post-production à l'extrême pour voir quelque chose. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a un truc. Donc, du coup, tout ce qui est proche de l'objectif pourrait ressembler à la pétouille, parce que c'était... D'ailleurs, j'ai pas vérifié, j'ai jamais pu voir si c'était sur l'objectif ou sur le capteur. Bon, c'était une des deux solutions, enfin, peu importe. Mais le problème, c'est... Il y a un truc qui me perturbe, c'est l'échelle par rapport à la
lune.
C'est-à-dire que le truc est forcément très, très loin. Forcément. Forcément, puisqu'on a une idée d'échelle, puisque déjà, on a la pétouille à l'extrême premier plan sur le capteur, sur l'objectif, et on a cette branche passe, qui bouge un peu d'ailleurs. Voilà, donc ça veut dire que forcément, bon alors maintenant, moi tu me diras, je m'imagine derrière, et, enfin devant, Mais si c'est devant, c'est très très loin. Donc pour moi, mais ça c'est encore pareil, c'est une interprétation, pour moi c'est forcément...
Le seul truc qui est assez étonnant dans cette image, c'est que là tu as quand même, un zoom assez important sur la Lune. Là. Donc tu as quand même... Et ce que je trouve hallucinant, c'est que si c'était une mouche, parce que là je me fais de l'autre côté, bien sûr, la possibilité d'être un avocat du diable différent que celui de Jocelyn, qui est Jocelyn, mais c'est que je me dis que si ça avait été quand même une mouche, ou un insecte, au vu de la grosseur de l'objectif, parce que la Lune est très proche, là, quand même, on devrait avoir la mouche très très en gros plan. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça reste quand même assez loin. Donc, c'est ça qui me...
Si l'objet est quand même très lointain, mais pas au niveau de la Lune.
Oui, mais s'il est très lointain, tu n'as pas de lumière, tu ne le vois pas. S'il est très lointain, la lumière... Je parle en tant que professionnel de la lumière. À un moment donné, la Lune, elle n'est pas suffisamment forte pour éclairer un insecte à 2 km. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. Donc là, c'est ça qui est fou.
Et puis, une mouche, alors à 23h15...
Des mouches, il y en a partout. Donc en plus, avec la chaleur, je sais pas quand est-ce que tu as tourné l'été et tout machin, là, il y a eu des trucs, les gens se sont fait bouffer par les moustiques, il y a eu des frelons, des machins, il y a eu tout cette année. Donc voilà. Non, ça, les insectes, le soir, il y en a plein.
Il faudrait déterminer en termes de distance où se situe cet objet, ce petit point noir.
Et tu as essayé, toi, avec tes logiciels, de zoomer au maximum pour essayer de voir s'il y avait une forme, un truc ou pas?
Alors après, c'est au maxi, parce que, alors en plus, moi, j'ai pas fait, enfin, c'est là où je suis un peu, forcément, j'étais forcément déçu, puisque, en fait, j'ai poussé le truc à l'extrême et je l'ai fait, entre guillemets, un peu maladroitement. Enfin, j'ai fait à l'envers. En même temps, j'étais pas là pour filmer un ovni, tu vois, j'étais là pour filmer le truc en basse lumière, voir la sensibilité de l'optique, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est le truc à l'envers. Et dans l'autre sens, j'aurais eu un meilleur résultat, qui m'aurait permis de zoomer dans l'image. Pourquoi? Parce que c'est une caméra qui fait du 6K. En Super 35. Là, pour avoir un tel zoom sur la Lune, parce que je voulais, en fait, le but c'était aussi d'avoir la Lune en très gros plan, avec ce 100 mm, j'ai mis un doubleur de focale, donc ça c'est destructeur, c'est-à-dire qu'un doubleur de focale détériore un peu ton image, certes il le zoome x2, mais il le détériore.
Bien sûr.
Et puis j'ai aussi croppé comme un malade dans le capteur, puisque je suis passé du 6K au 2K. Donc tu mets toutes ces petites sauces, toutes ces petits sandwichs d'abus de focale, forcément pour donner après une image qui va à peine dépasser la vie.
Donc Christophe, pour clore ton témoignage, pour toi, tu as la sensation que c'est quoi? Parce qu'après, il y a le ressenti que toi, que tu as.
Écoute, j'ai fait le rapport avec cette vidéo-là, avec beaucoup d'autres que j'ai vues, quand il s'agit de voir des choses face à la Lune, quoi, tu vois, c'est-à-dire quand ces choses-là sont non identifiées, on va dire, c'est-à-dire qu'ils collent pas, c'est-à-dire que, et surtout d'engins très très rapides, parce que si c'est vraiment lointain entre la Terre et la Lune, cette vitesse-là,
c'est pas terrestre, on va dire ça comme ça.
Un mi-parcours, c'est pas terrestre, et puis surtout à cette distance-là, si c'est vraiment aussi loin, c'est extrêmement rapide.
Il y a Véronique qui dit mais Bob, l'insecte ou quoi que ce soit n'est pas éclairé, on le voit en contre-jour. Je suis d'accord avec vous, Véronique, mais c'est parce que la Lune est très éclairée que on voit le contre-jour et qu'on voit l'insecte. Vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement c'est la Lune qui éclaire en contre-jour l'insecte.
En même temps, je suis convaincu que ça peut pas être un insecte, parce que si c'est un insecte, il serait totalement flou. Je veux dire, c'est-à-dire soit il est très loin, mais il est tellement petit qu'on ne peut pas le voir, soit il est pas loin, et à ce moment-là, il est pas loin de l'objectif, et à ce moment-là, il peut être certes dans le contre-jour de la Lune, mais il serait flou aussi, quoi.
Moi, ce que je trouve fou, quand même, c'est surtout le mouvement. C'est que si jamais c'est un objet... Encore une fois, c'est un mouvement qui est assez singulier, parce qu'effectivement, s'il y a des entités à l'intérieur, il faut qu'elles soient balèzes pour supporter, à la vitesse à laquelle ça va, avec la distance, léger hein, quand même. Hein,
supposer que ça soit un engin, ça peut être une sonde, enfin quelque chose...
Oui, c'est ça. Mais s'il y a quelqu'un dedans.
Vivant dedans.
Non, mais c'est ce que j'ai dit. S'il y a quelqu'un dedans, monsieur F. Keller, vous ne m'écoutez pas. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un dedans, après, effectivement, et là tu as raison, on peut, nous, on en voit bien des sondes partout. On peut imaginer. D'ailleurs, j'ai lu cet été Signe de vie de Dos Santos, où les extraterrestres envoient une sonde. Hein, donc, et malheureusement, il ne se passe pas des choses très sympas. Mais voilà. Écoute, Christophe, merci pour cette vidéo, parce que pour une fois, on a du bon matériel qui a filmé quelque chose. Après, ce que tu as filmé, on ne le sait pas. Et je crois qu'on va avoir du mal à trouver une explication. Mais dans tous les cas, ça prouve bien que même... Et ça m'amuse, parce que souvent, on dit... Ouais, alors à l'heure d'aujourd'hui, avec tout le matériel qu'on a, on n'arrive pas à trouver. On voit bien que même avec du matériel sophistiqué, c'est toujours très compliqué d'avoir une image parfaite. Vous imaginez les distances, et donc c'est pas si simple que ça d'avoir une image à la Spielberg avec un vaisseau qui atterrit place de la Concorde. Oui. Bon, Christophe, merci d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de se reparler, bien sûr, pour ton projet. Je te souhaite une belle soirée et à très bientôt.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Vous êtes nombreux ce soir sur les réseaux sociaux de BTLV. Je ne peux que vous en remercier. Vous nous saluez. C'est notre retour. On ouvre une nouvelle saison. Et bien sûr, on a besoin de vous. Si vous aussi, vous avez vécu quelque chose d'assez singulier, n'hésitez pas à nous en faire part. On n'est peut-être pas là pour décrocher parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais laissez un message avec vos coordonnées ou alors vous nous envoyez un petit mail à redaction@btlv.fr. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y aura pas de libre antenne. Et tous, vous avez vécu, puisque vous êtes là, souvent des phénomènes, des moments assez particuliers. N'hésitez pas à en parler. Ça ne sert à rien de le dire sur les réseaux. Sinon, il n'y a pas d'émission et on verra. Si dans 15 jours, il n'y a personne, eh bien, on ne fera pas l'émission. À tes souhaits, mon Mathis, à la régie. Bon, c'est quand même le seul mec qui rentre de vacances qui est malade. Hein. Donc, il est allé faire un test Covid. Bon, heureusement, il est négatif. Mais dans tous les cas, le mec, voilà, c'est en fait, il espère encore avoir des vacances. Mmh. Moi, je le sais. Je me demande si.
Non, mais on a compris,
monsieur. Bon. Alors, sachez que vous pouvez nous regarder à la télévision aussi.
Pour regarder BTLV sur votre télévision, il suffit tout simplement d'ouvrir le navigateur Google Chrome et de vous rendre sur btlv.fr. Rendez-vous sur l'émission de votre choix, faites ensuite un clic droit sur la vidéo et sélectionnez « Caster ». Sélectionnez enfin votre Chromecast et la vidéo arrive comme par magie sur votre télé.
Voilà, vous pouvez nous regarder donc sur grand écran. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire. 01 86 22 21 20, c'est Pascal Fechner du Maybe Planet qui est avec nous. Bonsoir Pascal.
Salut Bob, salut Jocelyn.
Bon,
salut.
On est ravis de t'accueillir, mon Pascal. On va évoquer l'actualité, bien sûr, que tu relais hein, quotidiennement sur le Maybe Planet, celle de l'ufologie. Et on va parler du congrès, parce qu'alors, on n'a jamais eu un congrès ou un gouvernement... s'impliquant autant dans les ovnis. Nous, on a posté plein d'articles cet été avec la NASA qui disait, qui est quand même financée par l'État américain, qu'elle s'intéressait au plus haut point aux ovnis. Le Congrès qui a dit que de toute façon, la cellule qui allait démarrer ses travaux à partir d'octobre allait tenir son calendrier. Donc, on n'a jamais parlé autant d'ovnis quand même, Pascal.
Mais non seulement on n'a jamais parlé autant d'ovnis au Congrès américain, mais en plus... le Congrès affine petit à petit le vocabulaire. C'est-à-dire que jusqu'à pas si longtemps, les ovnis, ça concernait les drones. Mais là, aujourd'hui, le Congrès est en train de travailler sur un texte où on dit bah, les ovnis, maintenant, c'est plus ce qu'on peut identifier comme étant fabriqué par l'homme, c'est-à-dire les drones ou autres. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que le bureau spécial ovni, le AARO, travaille uniquement sur les objets non fabriqués par l'homme.
Oui, c'est ça.
Donc là, c'est quand même assez exceptionnel.
Moi ça m'a étonné parce que j'ai écrit un article là-dessus aussi la semaine dernière ou cette semaine. Je me suis dit, attends, les mecs disent on va travailler sur les objets qui ne sont pas fabriqués par l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, le champ des possibles, il est comme ça.
Ah mais là, en fait, encore une fois, les hommes et les femmes qui composent le Congrès ont leurs propres convictions, leurs propres croyances. Et là, on voit que des gens comme Gallagher, Burchett ou encore Gillibrand poussent les murs et puis petit à petit se sentent la liberté de dire « bon, on va affiner un petit peu notre langage et on va aller là où on veut aller », c'est-à-dire que nous, on est convaincu que les objets qu'on voit, ce sont des objets qui ne sont pas fabriqués par l'homme et qui ne viennent pas de la Terre.
Moi, c'est le truc qui me... Je trouve qu'on a fait un bond. Ça fait 10 ans, tu le sais, qu'on travaille sur ces sujets. Je trouve que là, on a fait un bond.
Mais ça veut dire qu'il y a un postulat de départ. Ça veut dire qu'il y a...
Mais il y a déjà l'idée que ça ne vient pas de chez nous.
Voilà, ils partent du principe. Ouais. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les critères sur lesquels ils disent « Attendez, ça, cet objet-là qu'on voit, il est terrestre et celui-ci ne l'est pas.
Ouais. » Oui, parce que Jocelyn a raison de savoir, de soulever le souci, parce que comment vont-ils décréter que cet objet est terrestre et que l'autre il l'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est fou.
Ouais, bah c'est ça qui est fou. Et on voit les convictions de chacun. Burchett qui est quand même peut-être le plus, alors j'aime pas le terme, mais le plus extrémiste, en tout cas celui qui va le plus loin, parce que pour lui la Bible c'est un livre de science-fiction. Il cite régulièrement le chariot d'Ézéchiel. On sent Gallagher sort des références comme le mémo Wilson, comme le cas de Robert Salas à Mindstorm. Donc voilà, on sent que ce sont des gens qui ont une culture. Qui ont leurs propres sources, leurs propres lectures, et qui petit à petit essayent de les imposer à l'armée. C'est assez intéressant à voir.
Moi, je trouve ça très intéressant, effectivement, parce qu'on a la sensation quand même que les dirigeants, que ce soit militaires ou que ce soit politiques, prennent en considération ceux qui étaient peut-être un peu mis sur le côté à l'époque, ou un peu classés comme farfelus, etc. Moi, je trouve ça assez dingue. Et on s'aperçoit qu'avec le monde est de plus en plus fou, c'est que tous ceux qui étaient complotistes hier commencent à être réhabilités sur plein de choses. On le voit dans le paranormal, sur la conscience, sur plein de choses.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir les relations ou même l'opposition qui va naître entre, par exemple, la NASA, enfin les scientifiques purs et durs, entre guillemets, et ces gens-là qui sont un peu plus dans le spéculatif.
Mais on a la chance d'avoir un Bill Nelson quand même, Pascal, tu seras d'accord avec moi, qui est quand même dirigeant de la NASA, qui est un peu plus ouvert que les autres quand même.
Ah oui, mais ils sont ouverts, la
mais
NASA.
Bill Nelson est un extraterrestre, il faut en être conscient.
Ouais, c'est ça, tu as tout à fait raison. Alors, on va passer à un autre sujet dans l'actualité, c'est la photo de Calvin, qui a fait beaucoup parler. On va la voir, c'est cette photo de ce losange là. Alors, dis-nous-en un peu plus.
Oui, parce que Calvin, c'est pas le nom du monsieur, c'est le nom de la ville où cette photographie a été prise. Alors, cette photo, c'est un petit peu le Loch Ness de l'ufologie anglaise. Nick Pope en parlait depuis longtemps. Il disait qu'il avait une espèce de duplicata de cette photo dans son bureau qu'on lui avait fait enlever lorsqu'il travaillait sur les ovnis. Et voilà, c'était un cas qui était là. Il a été, il devait être déclassifié. Puis on a dit, on attend 50 ans de plus. Donc c'était quand même très étonnant. Pourquoi attendre? Et là, c'est le docteur David Clark, et c'est ce qui rend d'ailleurs le cas encore plus intéressant. David Clark, c'est un petit peu, si on devait comparer, comme un Pierre Lagrange en France. Donc c'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre, qui est très rationnel, et qui, en regardant cette photo, dit « c'est la photo d'OVNI la plus étonnante que j'ai jamais vue ». Pour autant, pour lui, c'est de la technologie militaire. Mais enfin, là, les militaires sont bien embêtés maintenant.
D'accord. Donc, on voit bien que... Et c'est toute l'ambiguïté qu'on a aussi, et même d'ailleurs pour ce groupe de recherche, que ce soit celui de la NASA ou celui du Congrès, c'est qu'à un moment donné, ça va être quand même compliqué pour eux, parce qu'il semblerait que même les dirigeants de certaines branches militaires ne sont pas au courant des projets des autres. Donc on peut avoir quand même des
projets top secrets. Quand on dit que c'est un projet top secret, c'est tout.
Ils ne se parlent pas entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée de terre peut être surpris de voir quelque chose dans le ciel qui est un projet top secret de l'armée de l'air. Donc ça va être compliqué quand même.
Je pense que ce qu'on voit sur la photo, enfin après c'est un avis un peu personnel, je pense que c'est un projet top secret. Mais terrestre, mais top secret.
On sait pas.
Que l'armée ne voulait pas dévoiler.
Pascal, on sait qu'il y a eu quand même des projets de soucoupes volantes réalisés par les, notamment après la Seconde Guerre mondiale, etc. On a tenté de faire voler des trucs comme ça.
Oui, bah il y a eu des tentatives infructueuses. C'est l'aéronautique. On tente des formes, on tente des systèmes de propulsion, ça marche pas. C'est vrai que cette photo de Calvin pose beaucoup de questions. Il y en a même qui disent, mais en fait, c'est une espèce d'île qui a été photographiée, donc c'est pas du tout ça. La photo n'est pas fake. Mais qu'est-ce qu'on a photographié ? C'est une vraie question quand même.
Alors, autre information sur laquelle j'aimerais que tu te penches et que tu nous en dises plus, c'est on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'il y a eu la bataille de Los Angeles 1942, on sait qu'il y avait les Foo Fighters, etc. Les conflits sont toujours le théâtre d'observations singulières. Et c'est ce qui se passe visiblement là aussi en Ukraine.
Alors effectivement, là on a une étude ukrainienne qui vient de sortir. Alors, il faut savoir que c'est une pré-publication, donc c'est pas un texte qui a été validé par les scientifiques à proprement parler, de trois astronomes ukrainiens qui auraient travaillé avec deux observatoires, donc en Ukraine. Alors, c'est étonnant parce que on se dit, en ce moment, les astronomes peuvent pas trop travailler sur le territoire ukrainien, mais apparemment si. Et de leur étude, qui fait que 8 pages, c'est quand même pas non plus quelque chose d'énorme, ils auraient détecté des anomalies, dont des objets qui se déplaceraient à une vitesse de 54 000 km/h, ce qui fait quand même beaucoup.
Oui, 54 000 km/h. Alors, est-ce qu'on peut donner du crédit à ces informations, Pascal ?
Bah alors, tout est là. Hein. Alors, c'est le journal Le Débrief qui a sorti cette information. Encore une fois, c'est une pré-publication. Ces scientifiques indiquent utiliser des mesures colorimétriques, pardon, ouais. C'est dur à dire. Pour autant, est-ce que c'était nécessaire de le sortir tout de suite ? Est-ce qu'il ne faut pas attendre que les pairs les visaient, qui est peut-être de bonne foi des erreurs de calcul ou autre ? Mmh. Voilà. Mais je pense que comme c'est ukrainien, bah, c'est un peu à la mode de sortir tout ce qui vient d'Ukraine et, oui. Et lui donner peut-être un peu plus de valeur que ce qu'il n'en a vraiment.
Alors je voudrais qu'on termine quand même quelque chose qui fait le buzz. Il y a eu Thomas Pesquet quand même qui, lors d'une conférence de presse, a eu soit fait un lapsus, soit eu la langue qui a fourché. Mais ça a été repris et c'est un peu compliqué.
Oui. Mais d'ailleurs, Jocelyn a tweeté la réponse de Thomas Pesquet ouais. qui se désespère, qui se désole de devoir faire un tweet pour dire « Mais non, mais bien sûr que nous sommes allés sur la Lune. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. » Il a fait un tweet dithyrambique. Voilà, maintenant, cette phrase rejoindra des phrases comme a pu dire Medvedev, comme a pu dire Juncker, voilà, où on peut entendre ce qu'on veut. Des gens diront « Mais Pesquet a dit face antenne qu'on n'est jamais allé sur la Lune. » Voilà, c'est certifié. Et après, il est revenu sur ses paroles. Voilà, bon, ça fera partie
Pascal, il n'a jamais dit dans cette interview. Il y a deux phrases qui ont été interprétées parce qu'elles sont un petit peu, on va dire, interprétables. Mais c'est tout. En fait, il y a deux phrases. Il dit la première, c'est on n'a jamais été aussi loin que voilà. Mais en fait, c'est vrai puisque la mission qui va être sur la Lune.
Un problème de son là, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas.
Arrête
si
de
tu
parler.
As... Voilà.
C'est bon. Ouais. oui, il dit qu'on n'a jamais été aussi loin, mais c'est vrai puisque l'homme n'a jamais été aussi loin que la Lune et que là, dans la mission qui va être déployée, on va aller la parabole que va effectuer la fusée va être aller un tout petit peu plus loin que la Lune. Donc quelque part, il a raison. Puis après, quand il dit humainement c'est impossible ou que je sais plus comment il a formulé ça, mais en fait, il parle de lui, il se demande si on lui demande d'aller sur la Lune, si humainement il va en être capable. J'invite juste tout le monde à réécouter tranquillement ce qu'il a dit, et en fait c'est clair comme de l'eau de roche, hein, mais bon. Et après, et à lire son tweet, enfin sa série de tweets qui pour moi parle de... Enfin, ne cite pas d'autres commentaires. Voilà.
Bon, dans tous les cas, on voit bien que tout cela va encore alimenter les discussions. Ceux qui pensent qu'on n'est jamais... aller sur la Lune vont s'en servir. Ceux qui pensent qu'on y est allé vont trouver ça un peu ridicule. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est l'espace d'expression que vous souhaitez avoir, c'est BTLV. En tout cas, on parle de tout, on ne s'interdit rien. Merci Pascal, on retrouve toutes les informations. Venez bien sûr sur le groupe Maybe Planet. Vous avez sur Internet Maybe Planet et vous tapez ça et vous aurez toutes les informations. Pascal est poste quotidiennement et 24 heures sur 24, dès qu'il y a une info, il est le first là-dessus. Merci. On t'embrasse Pascal et prends soin de toi. À très bientôt.
Merci Bob.
Salut.
Ciao.
Témoignage. Réaction. Commentaire. C'est la Libre Antenne BTLV.
La Libre Antenne BTLV, bien sûr, c'est l'occasion pour vous de témoigner d'un événement que vous avez vécu, bien ou mal hein, d'ailleurs. Il y a des gens qui vivent des choses assez extraordinaires et qui le vivent bien, puis d'autres sont marqués à vie. Une chose est sûre, souvent le plus difficile d'en parler, là vous pouvez le faire sur BTLV en toute simplicité. On ne vous voit pas, donc il n'y a aucun problème, vous êtes en tout anonymat. 01 86 22 20 20 ou redaction@btlv.fr. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin que l'on puisse vous rappeler et préparer la prochaine émission. Je voulais juste signaler également qu'on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Il y a Facebook. Là, vous pouvez envoyer des étoiles pour nous soutenir. Vous avez YouTube, vous avez Twitch, bien sûr. Et on rappelle que c'est le 10e anniversaire. On rentre dans la 10e année de BTLV. Vous imaginez, si on m'avait dit, il y a 10 ans que je serais encore là, à vous parler d'OVNI, de paranormal, d'ésotérisme, d'expérience de mort imminente, tout cela, eh bien, je vous aurais dit peut-être que vous êtes... fou. En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre. Je vois le chat qui est devenu un jeu un peu là. Le salon de thé, tout le monde se retrouve, tout le monde discute. Et puis pour ceux qui découvrent BTLV, bien sachez que c'est ça.
Cette saison encore, BTLV vous promet des interviews inédites. Des émissions rares. Des magazines exclusifs. Des documentaires exceptionnels. Pourquoi chercher ailleurs ? BTLV vous apporte toutes les réponses.
Analyser, décrypter, comprendre, telle est ma devise.
Là où les autres s'arrêtent, BTLV commence. BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué.
Voilà, c'est ça BTLV, ce sera l'occasion pour vous d'avoir une autre information que celle diffusée 24 heures sur 24 par les chaînes d'infos. Et je peux vous dire que, quelle tristesse ces chaînes d'infos. Je suis revenu de vacances, je m'étais vraiment... Mais,
c'est anxiogène. Voilà, hein,
c'est anxiogène, je me suis dit mais c'est pas possible, mais quelle année de merde ils nous annoncent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le gaz, le machin, le truc, la guerre et tout. J'ai dit mais putain, mais il n'y en a pas.
Je me suis demandé si on allait passer l'hiver. Tu vois.
Mais c'est ça, mais moi je suis là, je me dis ça y est, bon, je vais mourir, je vais me jeter du 7e étage, au revoir, à bientôt. Il faut tout de suite mourir, donc il n'y a pas de... Là-dessus, c'est pas possible. Donc si vous voulez une autre information un peu plus sympathique, différentes. Rejoignez-nous. On rappelle que pour le 10e anniversaire, il y a le sans engagement, totalement sans engagement. C'est la première femme à témoigner ce soir au 01 86 22 21 20. Elle s'appelle Nathalie. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir à toute l'équipe. Du coup.
Ravie de vous accueillir Nathalie. Vous avez vécu, vous, une rencontre assez particulière, hein, je crois.
Oui, moi j'en ai vécu plusieurs d'assez particulières, mais celle-là j'ai eu envie de la raconter parce que je l'avais mise en lien avec un témoignage qu'il y avait eu au mois de juin. Personne qui avait vu un loup-garou, reflet dans son rétro. Et du coup ça m'a fait mettre le doigt sur cette histoire qui est assez ancienne parce que j'avais 20 ans à l'époque, donc ça fait 30 ans à peu près. Et alors ça se passait en Aveyron, dans le sud d'Aveyron, dans une petite église en fait. En début d'après-midi, je me baladais par là, je suis rentrée dans l'église et j'ai été m'asseoir. L'église était ouverte, donc voilà, je m'assois sur le banc qui donnait sur l'autel. Et donc face à l'autel, voilà, j'étais en mode zénitude, tranquille, sereine, voilà. Et je pose mes yeux sur le, au pied de l'autel, il y avait un grand vase avec des fleurs, genre des fausses fleurs en fait. Et donc je pose mes yeux dessus et je vois une tête de lutin dans le bouquet de fleurs. Donc
quand vous dites je vois une tête de lutin, c'est-à-dire que vous voyez quelque chose qui vous fait penser, qui dessine une tête ou un vrai lutin?
Ah non, je vois vraiment une tête de lutin. C'est vraiment je vois un visage grimaçant. Un visage de petite personne, en fait, mais qui ne ressemble pas à un humain, avec un grand bonnet bleu. Donc, voilà, après, c'est ce que j'ai vu sur le moment. Donc, j'étais un peu, du coup, dans le même temps, j'ai senti une grande, grande peur. En fait, je me suis sentie paralysée sur le banc. Et donc, j'essayais de de me récupérer, en quelque sorte. Donc, je me disais, bon, tout va bien, c'est une hallucination, ça doit être la lumière, donc tu vas regarder ailleurs, parce que je ne pouvais pas bouger mon corps, à part mes yeux. Donc, voilà, j'ai détourné le regard, j'ai regardé un petit peu ailleurs, et je me disais, quand tu vas reposer les yeux sur le bouquet, il n'y aura plus rien. Et donc, j'ai reposé mes yeux sur le bouquet et la tête était toujours là.
Ah oui. Donc ça n'a pas été une hallucination rapide et fugace, c'est-à-dire que ça existait.
En fait, je l'ai fait trois fois à la manip en me disant non, mais c'est juste pas possible. En fait, je ne comprenais pas ce qui se passait, donc panique totale. Et puis, à un moment, je me suis dit non, mais c'est pas possible, là, il faut que je me lève et que j'aille toucher cette chose. Si vraiment elle est là, il faut que j'aille m'assurer qu'elle est réelle ou pas, en fait. Et au moment où je me suis dit ça, j'ai senti une présence à côté de moi, mais un truc énorme en fait. Ça faisait un cylindre de... ça m'a fait penser à un cylindre d'un mètre cinquante de diamètre sur 3 mètres de haut. C'était invisible, mais l'énergie était vraiment là. Et j'ai entendu une voix. j'ai senti une voix, parce que c'est plus ça le terme, je pense. Et c'était très rassurant, en fait. C'était « mais tout va bien se passer », parce que je pensais à partir en courant aussi de l'église. J'avais tout qui se bousculait dans la tête. Donc j'ai senti cette voix qui m'a dit « non, tout va bien se passer, vas-y, va essayer de la toucher, je t'accompagne, il ne va rien se passer de grave ». Donc j'ai fait un premier pas en avant en tendant le bras. Le visage était toujours là. Et un deuxième pas, j'étais à 2 mètres, hein, puis je suis assez grande, donc les deux pas ont été... J'aurais presque pu toucher le visage, en fait. J'ai fait un deuxième pas, j'ai tendu le bras, et au moment où j'allais toucher, en fait, ça a explosé comme une bulle de savon, en fait. Ça a disparu, tout simplement.
Ah ouais.
Et après ça, donc, j'étais toujours accompagnée de cette présence-là, ouais, qui m'invitait à me calmer, du coup, voilà.
Et alors, donc, comment vous expliquez tout cela ? C'est-à-dire qu'il y a un message derrière tout cela pour vous ?
Bah, justement, je n'ai pas fini l'histoire. Je n'ai pas fini l'histoire parce qu'en fait, donc cette présence m'accompagne jusqu'à la porte de l'église.
Ouais.
Et là, elle me signifie qu'elle reste, elle, dans l'église. Donc moi, je sors, je descends les marches de l'église pour rejoindre la route en contrebas. Et je sens, au fur et à mesure que je descends les marches, je sens un énorme nœud se défaire, en fait, au niveau du plexus solaire.
Mmh.
Et un poids monter, me traverser, mais je le sens vraiment comme s'il était réel. Et donc le poids monte, je le sens partir par le chakra coronal, en fait. Et je me suis sentie légère, en fait, toute la journée. Ce qui m'a plus surprise, en fait, c'est de me dire, je portais ce poids-là depuis quand, en fait. Je savais même pas qu'il était là, et il faut qu'on me l'enlève ou qu'il s'en aille pour que je me rende compte qu'il était là, en fait. C'était très bizarre, en fait, comme sensation. Mais toujours est-il que le reste de la journée était très légère, je me sentais vraiment bien. Enfin, ouais, quelque chose avait changé, en fait. Quelque chose avait changé de profond, en fait, en moi. Et en fait, je voulais raconter cette histoire parce que c'était un peu en lien avec l'histoire de la jeune fille qui avait vu le loup-garou, dans le sens où elle avait passé un calvaire, en fait, quand c'est arrivé. Moi, c'était dans une église. Et elle avait parlé aussi, elle avait bien insisté sur le visage du loup-garou qui était grimaçant.
Ouais.
Et moi, mon lutin était aussi très grimaçant. Enfin, il fichait vraiment la trouille.
Mmh.
Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se joue là
Donc, ils ne sont pas forcément gentils, parce que c'est vrai que quand on parle de lutin, de fées, de elfes, on a toujours la sensation que c'est des petites êtres de la nature et qu'ils sont sympas, des petits êtres de la nature. Mais il peut y avoir quand même, une tension derrière ces visages.
Ouais, je pense qu'en fait, qu'ils sont déclencheurs de peur, en fait. Donc après, c'est à nous d'être au clair avec nos peurs, je pense. Ils sont pas vraiment méchants, ils sont ni gentils ni méchants. Je pense qu'ils sont là pour déclencher des choses en nous, et c'est nous qui les percevons de telle ou telle manière. C'est comme les fantômes, hein. C'est pareil. Hein. J'ai vécu des histoires aussi avec des fantômes, j'ai eu très très peur, et au final... En fait, ils avaient juste un message à faire passer.
Ouais, souvent, c'est ça.
Cette tête de lutin, enfin, du lutin, vous n'avez vu que la tête, si
oui.
Je comprends bien. Elle était grimaçante, mais vous l'avez vue animée, c'est-à-dire que c'était une grimace.
Du tout, elle était figée.
C'était figée comme aurait pu l'être une poupée, par exemple.
Ouais, ouais, c'était plutôt ça. C'était plutôt ça. Du coup, j'ai pensé à une projection de mon inconscient. Enfin, j'ai pas bien su... C'est difficile à expliquer. Pour moi, c'est une projection de mon inconscient. J'ai résolu un truc, moi, là-dedans. Par contre, la présence d'énergie, après... ça, c'est pas moi, c'est quelque chose d'autre.
Ouais, il y a quelque chose en plus qui était là, qui vous parlait.
Ouais.
Ou qui vous...
Ouais. Ouais. Et vous pensiez, vous avez eu la sensation que cette chose en plus avait un lien avec ce lutin ? C'est-à-dire que c'était soit cette chose vous protégeait du lutin, ou soit cette chose était avec le lutin ?
Je pense que c'est quelque chose de... Enfin, de ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose de complètement indépendant.
Ah ouais.
Le lutin, c'est comme si, je sais pas, ce qu'il y a eu, il y a peut-être après des énergies particulières dans cette église, mais toujours est-il que je pense que mon inconscient a déclenché des choses à ce moment-là, et elles ont pris forme comme ça. Et après, la présence qui est arrivée n'avait rien à voir, je pensais, que ces manifestations. Ça peut être un ange gardien aussi, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas mettre des mots là-dessus. Enfin, ouais. En tout cas, pour moi, c'était complètement indépendant, et c'est venu calmer les choses, en fait. Et à un moment où j'avais un choix à faire...
Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience
Le poids qui est parti, en fait, je trouve ça génial. En fait, je souhaite à tout le monde de vivre ça, parce que ça m'a vraiment étonnée dans le sens où je savais même pas qu'il était là. Je savais pas que je portais ce poids-là. Et je me dis, on peut être tous porteurs de tas de poids, de tas de choses, et on s'en rend pas compte parce qu'on a tellement l'habitude de vivre avec. Et là, je me dis que c'est un cadeau quelque part que je me suis fait ou qu'on m'a fait, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est vraiment ça que je garde, moi. C'est vraiment ça que je garde, moi, d'avoir affronté m'être libérée de ça.
Ah bah voilà. Écoute, en tout cas, c'est une bonne chose que vous en soyez libérée. Merci Nathalie d'avoir été avec nous ce soir pour cette première libre antenne de la saison 2022-2023. On aura bien sûr l'occasion toutes les semaines ou tous les 15 jours, ce sera en fonction des témoignages que nous aurons, de vous proposer cette libre antenne. Et il y aura bien sûr aussi Bob vous dit toute la vérité avec des invités pour évoquer des sujets bien particuliers.
Pour avoir accès à BTLV sur votre iPhone, il suffit d'ouvrir le navigateur Safari et de taper dans l'outil de recherche btlv.fr tout simplement. Une fois arrivé sur le site de btlv.fr, vous cliquez sur cette petite icône en bas de l'écran. Ensuite, vous cliquez sur l'écran d'accueil. Vous cliquez sur « Ajouter » et comme par magie, vous retrouvez l'icône BTLV sur l'écran de votre iPhone. Et il vous suffira de cliquer dessus pour naviguer tranquillement sur btlv.fr.
Voilà l'occasion pour vous de retrouver BTLV sur votre mobile, parce que là on a parlé d'iPhone, mais il y a aussi le tuto hein, sur btlv.fr, sur la homepage pour Android. Et je sais que vous êtes. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait plus d'Android que d'iPhone. Donc dans le monde.
Je l'ignorais.
Voilà, donc vous pouvez nous regarder et surtout avoir les notifications aussi dans la poche, des lives, etc. Donc tout cela, c'est sur btlv.fr que vous le découvrez. On va regarder quand même ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde ce soir, il y a beaucoup de gens qui nous souhaitent aussi un bon anniversaire, qu'on le rappelle, hein, on rentre dans la 10e année. La 10e anniversaire, ce sera en septembre 2023, mais on rentre dans la 10e année, voilà, et on s'était dit que durant cette 10e année, bah, il fallait souligner votre fidélité, aussi votre gentillesse, votre bienveillance, votre soutien, parce que quand on a eu des grosses galères, vous avez toujours été là, et ça nous fait bien plaisir, sans oublier bien sûr que pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui nous écoutent lors des lives, il faut remercier les abonnés, parce que sans les abonnés, il n'y aurait pas ces lives qui sont gratuits. Et si vous avez l'occasion bien sûr de nous rejoindre, c'est au-delà bien sûr d'avoir accès à toutes les émissions, c'est rentrer dans une communauté, rentrer dans une famille et surtout découvrir des centaines et des centaines d'émissions. D'ailleurs, mon Jocelyn, il y aura un dossier inexpliqué qui va arriver bientôt.
Oui.
C'est quoi ?
Le mystère dans le sac.
Je connais pas.
Bah en fait, c'est un phénomène très curieux qui s'est passé. Alors, on va replonger dans le temps. En 1730, sur lequel j'avais enquêté pour mon livre, et j'ai trouvé de nouvelles informations.
D'accord.
Donc, je voulais le refaire. J'en avais un petit peu parlé pendant le confinement, mais de manière un petit peu légère.
Succincte,
ouais. Un petit peu succincte. Là, c'est vraiment un dossier plus développé. Et puis, j'ai aussi trouvé quelques événements un peu similaires, alors que je pensais qu'il était unique en son genre.
D'accord.
Et voilà. Je vais revenir là-dessus.
Bon, je rappelle que, bien sûr, Jocelyn est en exclusivité sur BTLV pour ses dossiers inexpliqués. Et par contre, il sera les 10 et 11 septembre. Regardez, sur un salon avec notre ami David Gallet, qui lui aussi fait les Mystères de France sur BTLV. Je sais qu'à la régie, il cherche le visuel. Dernière place disponible, parce qu'il y a une jauge bien précise. Ouais. 30 conférences, des auteurs, des spécialistes, des boutiques ésotériques, mystères paranormaux.
Dans un endroit où on ne peut pas accueillir, manifestement. Alors, je ne le connais pas, hein, c'est un nouvel endroit qu'on découvre.
Ouais.
Mais c'est un endroit où on ne peut pas accueillir absolument tout le monde. Donc il faut s'inscrire. Je crois qu'il y a un petit tarif d'entrée. Par contre, le programme est très très alléchant parce qu'il y a David, moi, mais une trentaine de conférenciers. Hein. Bon. Il y a des ateliers, enfin il y a plein de choses.
Magnifique. 01 86 22 21 20, on va accueillir Joël qui est avec nous. Bonsoir Joël.
Bonsoir Bob. Bonsoir Jocelyn.
Ravi de vous accueillir Joël. Vous avez vécu quelque chose, vous aussi, d'assez particulier et qui mettait en scène une sphère lumineuse, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, cet événement s'est trouvé dans un contexte. Ça s'est passé durant l'été et précisément le mois de juillet 2017.
D'accord.
Suite à l'observation aux alentours du vin, donc déjà sur la région d'Orion, dans le 63, et dans un premier temps, des observations de lumière dans le ciel.
Attendez, parce que Orléans, c'est 45, c'est pas 63.
Rion.
J'avais compris Orléans, pardon, excusez-moi.
C'est une petite bourgade au nord de Clermont-Ferrand.
C'est ça.
Et en fin de compte... j'ai pu assister à l'observation de lumière dans la nuit, aux alentours d'1h du matin, aux alentours du 20 juillet 2017. avec d'abord une lumière fixe orange, et ensuite l'apparition à l'issue d'une dizaine de minutes de fixité de cette lumière dans le ciel. Alors j'ai pas vu d'objet, j'ai pas vu de forme, c'était un petit peu loin, j'étais au balcon d'une résidence, et en fait une lumière fixe pendant 10 minutes, ouais. orangée, ouais. aucun bruit, à environ, je dirais, alors c'est dur la nuit, mais à environ 500 mètres, et au bout de 10 minutes, la lumière orangée a été remplacée par des lumières rouges et vertes intermittentes, mais asynchrones. C'est-à-dire que en fait, il n'y avait pas de régularité dans l'apparition des lumières, rouges et vertes. Mmh. Et donc ça a duré 45 minutes à peu près, cette fixité, il ne s'est rien passé, cet objet ne faisait, enfin, comment dire, un objet, je n'ai vu qu'une lumière, mais cette lumière n'était pas associée à un bruit, à quoi que ce soit, et au bout de 45 minutes environ, ça a disparu, ça s'est éteint.
C'est long, voilà. 45 minutes, vous n'avez pas filmé ? Vous n'avez pas filmé ?
Ben, j'ai filmé, mais en fin de compte, c'était totalement flou. Alors j'ai un portable, et d'ailleurs c'est toujours le même, alors pour vous dire, en fin de compte, qu'il y a une résolution qui est très mauvaise, et ce que j'ai filmé donnait une espèce de tache, un halo extrêmement vaporeux.
Et vous qui avez vu de, avec vos yeux cet événement, la taille, tout cela, machin, ça correspondait à quoi ?
La taille, je ne sais pas, je n'ai vu que la lumière, d'accord. en fin de compte.
Donc vous ne savez pas si derrière la lumière, il y avait quelque chose de consistant, de matériel, quoi, c'est
non,
ça
pas La du lumière tout, avait pas l'air du d'être tout. À peu près à 500 mètres. Enfin, voilà.
Voilà, donc là, vraiment, c'était en pleine nuit, c'était à 1h du matin. Donc, pour être totalement honnête, je n'ai pas pu déterminer.
C'était haut, dans le ciel, c'était haut dans le ciel ou plutôt.
Non, c'était plutôt bas. C'était, on va dire, 80-100 mètres. 80-100 mètres au-dessus. Alors, à l'endroit où je me trouvais, c'était dans l'axe. On est dans la région des eaux auvergnates. Mm-hmm. Donc, c'était dans l'axe des usines. D'une eau extrêmement connue. Et en fin de compte, c'était pas haut, c'était à 80-100 mètres à peu près. Hein. Et ça a duré 45 minutes. 45 minutes.
C'est énorme, 45 minutes. Hein.
Oui, c'est énorme. Et ce qui m'a le plus impressionné, moi, c'était le manque de synchronicité dans les lumières.
Oui, c'était l'apparition des lumières était erratique, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de...
Ça faisait comme un code, un code morse, un petit peu. Ouais. C'est-à-dire, mais qui aurait été plus lent. C'était le changement de, comment dire, allumé, éteint, que ce soit les lumières vertes ou rouges.
Et vous avez été le seul témoin de ce phénomène ?
Non, je n'ai pas été le seul. C'est-à-dire que, en fin de compte, je me trouvais avec ma compagne sur le balcon. Mmh. La veille, sa fille nous avait signalé un phénomène équivalent, mais de l'autre côté de l'appartement. C'est-à-dire, c'est un appartement traversant, donc elle avait vu une chose équivalente. Mmh. Et au moment où on est allé voir pour observer la chose pour laquelle elle nous avait, entre guillemets, réveillé. Mmh. On n'a rien vu, donc c'était terminé. Donc elle a eu droit à tous les colibés et toutes les plaisanteries de bas étage.
Oui, comme d'hab.
Et le lendemain, donc, quand on s'est arrivé, on l'a fait sortir de sa chambre pour lui demander si c'est ce qu'elle avait vu. Mmh. Elle avait vu la même chose. Le lendemain matin, on a croisé la voisine du haut dans cet immeuble qui avait vu elle aussi la même chose, et quand, en voyant ça, elle a fermé les volets et elle est allée escalader dans son lit, quoi. Et elle a trouvé que c'était quelque chose qui semblait anormal, et elle voulait pas en savoir plus.
Et justement, en plein jour, vous n'êtes pas allé justement à 500 mètres pour voir s'il y avait, je sais pas, un début d'explication, une source lumineuse possible, enfin je sais pas, n'importe quoi d'insolite.
Non, parce que en fait je connais la topographie des lieux, et je sais pertinemment que cet endroit c'était pas des phares, des phares sur la montagne d'en face, et cette lumière, moi ça me turlupine, parce que dans les observations qu'on peut avoir d'objets dans ce style, je suis pas le premier à référencer des observations de ce style. Il me semble qu'on ne parle pas suffisamment de cette lumière. Pourquoi faire de la lumière? Dans quel but?
Oui.
À quoi elle sert?
Ça me rappelle un peu Spielberg, vous vous rappelez, Rencontre du troisième type, il y a quand même la musique, mais aussi les lumières qui s'allument en fonction des notes.
Qui font un code.
Et vous savez, je disais encore une fois tout à l'heure, je disais que j'avais lu Signe de vie de Dos Santos, à qui l'on doit la formule de Dieu, etc. Et je me disais, mais en fait, la vraie difficulté d'un contact aujourd'hui, c'est la communication. C'est-à-dire que qu'on va... Alors, Dos Santos part sur l'hypothèse que les mathématiques permettront, bien évidemment, une civilisation intelligente de comprendre, parce qu'en fait, tout est mathématique dans l'univers. Et si nous, on l'a compris, elle devrait, cette civilisation, l'avoir compris aussi. Mais en même temps, c'est vrai que la lumière peut être quelque chose. Le son, vous savez, on peut tout imaginer. On peut tomber sur des entités qui n'ont pas d'oreilles, qui n'ont pas de dieu, qui se dirigent d'une façon complètement différente. Il va bien falloir trouver quelque chose, un consensus qui va permettre à tout le monde de communiquer quand même. Hein, donc,
C'est ça. Et en fait, il me semble qu'on ne s'est pas suffisamment penché sur... C'est récurrent quand même, cette histoire de lumière.
Ouais. Vous avez raison. Vous avez raison.
Ça revient continuellement.
On se souvient, regardez Phénix, les lumières de Phénix, on a appelé ça les lumières de Phénix. Donc voilà, donc il y a toujours ça. C'est vrai que cette lumière, et vous avez totalement raison, c'est-à-dire que moi je ne veux pas me faire voir, je n'allume pas les phares de la voiture. Là, ce qui est fou, c'est que ces engins allument des lumières. Donc, voilà, donc...
En tout cas, il y a des pistes.
Oui, c'est ça. Alors, la lumière a peut-être une fonction particulière qu'on ne connaît pas. Mais en fin de compte, cette lumière, et puis ça revient systématiquement, la lumière rouge, la lumière orange, la lumière verte. Alors pourquoi pas du violet, pourquoi pas du bleu, pourquoi pas... Pourquoi?
Non, c'est souvent, souvent effectivement de l'orange, les boules lumineuses oranges, on en a eu beaucoup de témoignages là-dessus.
Voilà, depuis quelques années.
Et après, il y a souvent des associations avec du rouge, du vert et du jaune.
Ouais, c'est
aussi,
ça.
Du jaune. Et du blanc. Et du blanc.
Bon, bah écoutez, en tout cas.
Moi, j'ai juste une chose. Ouais. En tout cas, il y a des pistes qu'on peut écarter parce que, selon vos témoignages, les lumières donc, étaient intermittentes, pas du tout régulières. Donc, ça écarte tout ce qui est, par exemple, les lignes à haute tension,
les
tours. Les tours, parce que vous avez des tours aujourd'hui, alors des châteaux d'eau, des choses comme ça, ou des tours industrielles qui sont très hautes.
Oui, qui sont signalées pour.
Et qui sont signalées pour les avions, par exemple, avec des lumières. Mais bon, là, de ce que vous dites, ça ne correspond pas vraiment.
Et c'est d'autant plus. Prégnant cette histoire de lumière vis-à-vis de l'observation que j'ai pu faire deux jours après, c'est-à-dire que en fin de compte, je récupérais mon fils chez mes parents pour aller passer une après-midi au mois de juillet à la piscine de Châtel-Guyon tranquillement pour aller manger une glace. Donc j'avais récupéré mon fils et j'allais retrouver ma compagne et sa fille et puis on allait passer une après-midi sympa. À Châtel-Guyon.
Ouais.
Et en fin de compte, sur la route RD420 entre Gerza, donc une petite bourgade au nord de Clermont, et Ménétrol, qui est une ville qui est contiguë à Rion, donc le long de la voie ferrée, il faut imaginer, hein, on est dans une après-midi magnifique de juillet 2017, quelques petits nuages, un soleil écrasant, une chaleur étouffante. Moi, je ne supporte pas la clim. Donc ça me donne des mal de crâne, donc j'avais ouvert les fenêtres en grand pour faire des courants d'air. J'avais mon fils à côté de moi qui était sur... alors je sais plus si c'était une console de jeu ou son portable, peu importe.
Ouais, c'est pareil.
Ouais, c'est pareil, c'est-à-dire les ados, ils sont comme ils sont, quoi. Et en fin de compte, donc la vitre ouverte, et par la vitre passager est rentrée une petite sphère de lumière, une petite bille, qui est rentré sur un angle de 45 degrés par rapport au sol et par rapport à l'axe de circulation de la voiture.
Ouais.
Et alors, j'ai pu la voir rentrer. Donc, la vitesse devait pas être exceptionnelle. C'était pas un déplacement instantané. C'était pas un déplacement extrêmement rapide. Je dirais, par rapport à la vitesse du véhicule, la vitesse de cette bille, de cette sphère, devait être aux alentours de 80-90 km/h, quoi.
D'accord.
Puisque je l'ai vu rentrer. J'ai pu observer dans mon champ de vision extérieur, périphérique, droit, qu'elle rentrait parfaitement rectiligne. Mmh. Donc c'était une trajectoire comme celle d'une balle un petit peu. Et donc j'étais en train de conduire. Il y avait la radio, il y avait... voilà, tranquille. Et en fin de compte, cette bille est venue s'immobiliser au-dessus du pommeau de levier de vitesse. Donc au-dessus de ma main, donc à peu près à hauteur du lecteur autoradio. Mmh. Et ça a duré 3-4 secondes, hein, entre l'entrée et la sortie de la sphère, 3-4 secondes. C'était une sphère métallique, j'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que j'ai pu en référer au GEPAN qui m'a orienté vers tout ce qui était orbe, manifestations ésotériques, que je ne remets pas en cause.
Ouais.
Mais en fin de compte, c'était vraiment un objet métallique. C'est-à-dire si j'avais été rapide, j'aurais pu la prendre dans ma main. Et je dis ça parce que j'ai eu le temps de voir que c'était un objet métallique à l'aspect grumeleux. On pourrait dire, c'était pas réellement comme s'il y avait des grains de sable dessus, c'était comme s'il y avait des rainures dessus.
Un peu comme une balle de golf ? Ou une boule de pétanque, une boule de pétanque striée ?
Petite boule de pétanque.
Non. Ça faisait comme s'il y avait des sillons dessus.
D'accord.
En fin de compte.
Okay.
Comme des sillons, comme des... voilà, en fin de compte, un petit peu comme des sillons. Alors c'était métallique, de couleur or, bronze, entre les deux, donc entre le jaune orangé. Ça émettait extrêmement beaucoup de lumière, mais cette lumière ne faisait pas mal aux yeux.
D'accord, ça arrive souvent. C'est-à-dire, aussi. C'est très lumineux, mais ça éblouit pas. Donc
voilà, c'est lumineux, mais ça n'éblouit pas.
Ouais.
Et c'est lumineux, mais ça ne fait pas d'ombre. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, l'intensité qu'il y a pu y avoir dans l'habitacle, l'intensité de lumière qui a pu y avoir dans l'habitacle à ce moment-là, correspondait à celle du soleil, grosso modo.
Ouais.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que mon fils à côté n'a rien vu.
Ah.
C'est-à-dire que, il était plongé sur son téléphone, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est une lumière qu'on ne voit que si on la regarde.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous savez, Joël, c'est que parfois, on a des phénomènes qui ne se montrent qu'à certaines personnes. Il n'y a que vous qui les voyez, ces phénomènes, et pas d'autres personnes. Donc, c'est tout à fait particulier et compliqué, d'ailleurs, à en parler, parce que souvent, vous avez quelqu'un... Regardez, il y a votre fils, est derrière, il ne voit pas. C'est vous qui
le voyez. Oui, non, mais il n'était pas derrière, il était à côté de
vous. À côté de vous, et il ne le voit pas. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Donc, vous voyez, c'est...
Oui, c'est un truc de fou.
C'est un truc de fou.
Et en fin de compte... Donc cet objet est resté statique, donc il faut imaginer quand même, hein. On passe d'un référentiel à un autre, c'est-à-dire que l'objet circule dans l'air, arrive dans la voiture, cale sa vitesse sur celle de la voiture pour être parfaitement immobile au-dessus du levier de vitesse, parfaitement immobile, hein. Et ça a duré grosso modo une seconde, donc en une seconde on a le temps de voir les choses quand même. Et à l'issue de ça, il a décrit des mouvements d'une dizaine de centimètres extrêmement rapidement, de façon rectiligne et en s'arrêtant immédiatement, de façon quasi instantanée, en faisant des pauses d'une demi-seconde à peu près, a décrit un triangle équilatéral et est ressorti sur la même trajectoire par laquelle il était rentré dans la voiture.
Bon alors, si vous aussi, vous avez vécu quelque chose de semblable, n'hésitez pas à nous en faire part, parce qu'on n'a aucune explication à donner. D'ailleurs, on en a rarement.
Oui, je suis demandeur.
Voilà, donc on est demandeur. Merci en tout cas, Joël, de nous avoir raconté cette histoire ce soir dans cette libre antenne de rentrée. Vous aussi, vous avez vécu quelque chose d'assez particulier. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Et surtout, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées.
Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV.
Je voudrais annoncer la sortie d'un magazine dont on est partenaire, OVNI Science et Histoire, avec cette zone 51 en pleine mer, un dossier que l'on doit à Sylvain Matisse. D'ailleurs, il y a une émission sur BTLV avec Sylvain Matisse qui vous permet de pousser la réflexion et si les océans n'étaient pas là pour accueillir ces objets aquatiques non identifiés ou ces objets volants non identifiés. Donc, on n'a pas de visuel de ça en gros plan. T'as oublié de le faire, en fait, c'est ça. Oui, t'as oublié, en fait. Non, non, mais Mathis, il est en vacances. Hein, ça veut dire, je veux dire une chose. Les vacances continuent pour Mathis. Un jour, ça va barder, mais ça va barder. Autec, la zone 51 marine. Magnifique gros dossier. Plein de choses. J'adore ce magazine. OVNI, science et histoire. Et on aura d'ailleurs, je crois, le 21 septembre, Sébastien Route, le rédacteur en chef adjoint, qui viendra nous en parler plus en détail. Puisque je parle d'événements, il y en a un, même deux, qui arrivent et qui se profilent à l'horizon. Et c'est Patrice Marty qui va nous en parler. Salut mon Patrice.
Salut Bob, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous revoir.
Ah ben oui, écoute, les vacances se terminent. Il faut, enfin, attends, je dis se termine. L'autre, il est dans le sud. Tu sais que l'autre, il est en vacances tout le temps quand même, le Patrice Marty. Non mais arrête, arrête. Moi, je suis venu chez toi, je sais. T'es en vacances tout le temps. Donc voilà. Donc bon, Patrice, tu reprends le chemin de l'école quand même avec deux gros salons. Hein.
Oui, un gros salon, le 1er, 9, 10, 11 juin. Juin.
Oh là 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 là.
Il est en vacances.
Mais oui, c'est les vacances, qu'est-ce que tu veux. Donc, je reprends 9, 10, 11 septembre. C'est le salon de Toulouse, de 8e édition. On n'a pas pu le faire l'année dernière. On revient deux ans après avec plein de belles choses, avec des conférenciers que j'adore, puisqu'on a Patrick Drouot qui sera là, Luc Baudin. On a Géraldine Garance, on a vraiment beaucoup de monde qui seront avec nous sur ce salon. On a aussi Sylvie Beljanski, enfin plein de gens. Allez voir sur les sites internet, je peux pas tous les citer, je vais en oublier, c'est sûr. Et voilà, on a plus de 180 exposants, donc un joli salon sur Toulouse-la-Bège. Les 9, 10 et 11 septembre.
Bah, en
et
tout
voilà,
cas,
c'est un salon que tu aimes bien, parce bien que sûr. C'est chez toi.
Ben oui, c'est à Toulouse. Et puis surtout, il y a beaucoup, beaucoup de gens que vous découvrez ou que vous connaissez par BTLV qui sont là-bas. Donc vous pourrez les voir en chair et en os, discuter avec eux. C'est la force de ces événements en présentiel. En plus, maintenant, ça y est, on peut se balader sans masque et en toute liberté. Donc il faut en profiter. Et Patrice vous organise à chaque fois des événements qui sont absolument dingues. Je suis allé plusieurs fois, bien sûr, participer à ceci. Et c'est toujours un plaisir. Alors, dans la foulée, en plus, tu as celui de Lyon.
La semaine d'après.
Eh oui.
On part sur Lyon-Villefranche. Et là, c'est 16, 17, 18 septembre. Ouais. Et là, on a aussi un joli salon avec Christophe Midici, Jean-Marie Muller, Géraldine Garance, Marie-Lise Labonté, qu'on adore, Marie-Lise, bien évidemment. voilà, plein de belles choses également sur ce salon. Voilà, ça va être pour moi une première à Villefranche, puisqu'on n'avait jamais fait ce salon, là, sur ce lieu. Et on va découvrir le lieu et tous les habitants qui sont autour de cette belle région, qui a le Beaujolais qui n'est pas loin, il y a Beaune qui n'est pas loin, voilà, des noms qui sautent comme ça, avec des sons qui donnent envie de découvrir plein de belles choses là-bas dans la région et tout ce qui tourne autour du bien-être, bien évidemment.
Alors, mon Patrice, pour avoir plus d'informations, bien sûr, nous, on va relayer ça dans nos articles et sur le site de BTLV, mais il y a un site internet, bien sûr, pour tout savoir.
Pour chaque salon, c'est pas compliqué, c'est salonbien-être.com. Donc, salonbien-être-toulouse.com, salonbien-être-lyon.com. Et là, vous avez tous les éléments sur le programme complet des conférences, la liste des exposants, le tarif d'entrée, le bulletin de Tombola pour gagner plein de cadeaux que vous pouvez télécharger gratuitement, bien évidemment. Et voilà, on vous attend à partir de la semaine prochaine sur Toulouse et après Lyon. Bob, tu viens quand tu veux, t'es le bienvenu.
Bah, super. Merci en tout cas, mon Patrice, d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de ces salons. Ça, on a la vie qui revient, donc il faut en profiter. Il y a les salons de Patrice, il y a d'autres événements, bien sûr, que nous espérons pouvoir remettre en place, comme les rencontres du mystère de l'expliquer. Donc, ça fait 3 ans qu'on n'a pas pu vous les proposer. Donc, on espère peut-être qu'en 2023, ça reviendra. En tout cas, mille merci, Patrice. Et puis, je signale à tous ceux qui sont abonnés à BTLV que Patrice va venir très prochainement ici en studio à Paris pour enregistrer deux émissions qui seront bien sûr à votre disposition si vous nous rejoignez. Et profitez-en, on le rappelle, on rentre dans la 10e année de BTLV. Vous pouvez nous rejoindre sans engagement. Ça y est, on est passé tout sans engagement, tous nos abonnés sans engagement et à tarif réduit. Merci Patrice, on t'embrasse très fort, à très bientôt. Salut.
Merci, je vous embrasse, à très vite.
Ciao.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Et voilà, on arrive au terme de cette libre antenne. Mon Jocelyn, ça a été encore une belle...
Bien copieux.
Voilà, oui. C'était bien copieux. On avait des beaux témoignages inédits. Hein, le lutin, le fait qu'on ait cette boule au-dessus de la, voilà. Au-dessus de la, du pommeau de vitesse, assez singulier. Les entités aussi au bout du lit. Voilà, ces trois entités. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de témoigner, qui ont eu le courage de le faire. Si vous aussi, vous avez envie de le faire. Voilà, on est à votre disposition. C'est totalement gratuit, bien sûr, et en tout anonymat. Merci à Mathis d'avoir réalisé cette émission. Merci à Noémie de nous avoir permis de la préparer et à toute l'équipe de BTLV, Simon, Marie-Laure ou encore Imad. Merci à tous. Merci mon Jocelyn. À très bientôt. Mercredi prochain, c'est Bob vous dit toute la vérité. Salut.
Témoignage. Réaction. Commentaire. C'est la libre antenne BTLV. BTLV.